cette première maison, ou comme j'imagine beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai commencé à la louer pour les vacances, pour les extras, voilà. Et j'ai fait ça pendant quelques années, sans jamais penser qu'un jour, ça deviendrait une activité principale.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interview également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcasts ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas! Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Magali, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, je te suis depuis bien longtemps sur Instagram et je suis très admirative de ton goût et surtout de ta créativité. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé le métier idéal pour vivre de tes multiples passions ?
Écoute, merci en tous les cas de me donner la parole aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu plusieurs vies. Et que je suis en train de recentrer avec cette activité et les activités que j'ai autour de cette activité, puisque Inamura, c'est un univers et ça va au-delà des maisons, que je suis probablement en train de réunir toutes mes passions.
Comment ça a commencé, cette folle aventure d'Inamura ?
Alors, cette folle aventure d'Inamura, moi, j'ai eu plusieurs vies. J'ai déjà eu une première vie. Moi, je viens de la communication et du marketing. Donc, j'ai eu une première vie dans le monde de la glisse, puisque j'étais responsable de la communication du groupe Rossignol, des skis, pour ceux qui habitent du côté de Grenoble. Et ensuite, voilà, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale, une deuxième où j'ai monté une société dans l'immobilier à Marseille. Voilà, une grosse agence immobilière. Et en fait, j'ai eu envie sur cette nouvelle partie de vie d'être plus centrée sur un projet de transmission. Donc moi, Inamura, aujourd'hui, c'est une manière de réunir ma passion pour l'habitat traditionnel provençal, pour ma passion pour la rénovation, puisque ça part de là, ma passion des objets chinés, puisque j'ai une vraie passion pour la brocante. Je suis née à côté de l'Île-sur-Sorgue. Et du coup, le métier que je fais aujourd'hui, et Inamura, c'était à la fois une manière de rendre hommage aux femmes qui m'ont précédée et qui ont eu cet accueil méridional, puisque moi, je viens d'une famille d'agriculteurs et d'exploitants agricoles qui travaillaient le raisin de table, le chasselas. Et donc, ma grand-mère Lisette, dont je parle beaucoup dans le projet, elle animait des grandes tablées avec des vendangeuses, des ouvriers agricoles. Et donc, moi, j'ai vécu avec les récits de cette hospitalité à la provençale, une hospitalité très rurale, très brut. Et donc, en Inamura, ça reste quand même rendre hommage ou transmettre ou continuer cette espèce d'hospitalité qui est vraiment authentique, simple, intemporelle, un peu brute. Et c'est pour ça que j'ai des maisons qui sont quand même assez brutes, voilà, avec une décoration, un univers assez brut. Voilà. Donc, le projet, il vient de là, c'est cette volonté de rendre hommage aux femmes qui m'ont précédée, qui n'ont souvent pas été valorisées comme entrepreneuses, puisqu'elles étaient derrière leur mari. Et même quand mon grand-père est parti à la guerre, c'est elle qui tenait les terres, la maison, le personnel, et quand il est revenu, elle s'est effacée à nouveau. Donc moi qui ai eu la chance d'être une femme libre et entrepreneuse, j'avais envie de rendre hommage à ces femmes-là, il n'y a pas eu que ma grand-mère, et aussi de transmettre toutes ces valeurs de l'art de vivre en Provence, dans le Sud, à mes deux filles qui ont aujourd'hui 18 et 20 ans. Donc Inamura, ça part de là, Et après, bien évidemment, j'avais une première maison que j'avais louée, etc., etc.
Oui, justement, donc cette première maison, c'était d'abord une maison, c'était ta maison principale ?
Alors, oui, j'avais une première maison. Donc aujourd'hui, Enamoura, c'est 5 lieux, 5 maisons de vacances. Donc la première, elle est à côté de Lys-sur-Assorgue, c'est la maison dans laquelle j'ai élevé mes filles. Donc c'est une maison qui est que j'appelle aujourd'hui la maison de village. Elle est adossée à la colline.
À Somman.
Et donc c'est Somman de Vaucluse, sous le château où a été élevé le marquis de Sade. Et donc cette première maison, comme j'imagine beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai commencé à la louer pour les vacances, pour les extras, voilà. Et j'ai fait ça pendant quelques années, sans jamais penser qu'un jour ça deviendrait une activité principale.
Et
donc ensuite il y a eu d'autres maisons. Et donc la particularité, c'est que ce sont mes maisons et que je vis en fait dedans. Donc j'ai du mal, voilà, je vis dans toutes ces maisons. Donc toutes ces maisons ont abrité mon univers. Ce sont pas des maisons que j'ai à la base construites pour ça. J'ai envie de dire que c'est une collection de maisons. C'est une espèce de rêve d'enfant d'avoir. Aujourd'hui, la maison de village, la maison de ville, une chapelle, un atelier d'artiste. Donc c'est vraiment des rêves, hein, j'ai envie de dire, sur ma wish list de mon enfance. Le dernier rêve, c'est une maison sur pilotis sur la plage, tu vois. Donc, on n'y est pas encore, mais je suis pas très loin du cabanon pour le moment. Voilà, donc ça va peut-être arriver. Mais en effet, voilà, c'est plus un rêve. J'ai envie de dire que j'avais cette chance et cette liberté après plusieurs vies de un peu moins être dans l'urgence et d'avoir déjà investi dans 2 maisons. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et ensuite, le projet s'est construit autour de la marque Enamoura, qui veut dire l'amoureuse en provençal, enfin, qui est tiré du mot Enamourados, Enamourada, l'amoureuse. Et donc, voilà, ensuite, il y a cet univers qui était de dire, bah, je vais pouvoir recevoir des vacanciers dans des univers qui, moi, me sont chers, où moi, j'ai grandi pieds nus. Il y a évidemment une maison qui ne fait pas partie de cette collection, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi, qui est un mas provençal qui s'appelle Maria des Fleurs et qui est encore non loin de Lys-sur-Sorgue où vit ma mère. Mais voilà, c'est dans les maisons que je propose aujourd'hui, c'est cette même façon de vivre, pieds nus, assez simple, où on peut faire des confitures, où on peut mettre sa valise et être chez soi, où il y a des objets qui ont déjà eu 1000 vies et qui sont très personnelles. Donc, en fait, ce sont des maisons qui sont très personnelles.
Très personnelles, et pour autant où chacun va se ressentir chez soi, comme tu dis. Donc, tu l'as dit, tu as une vie nomade, parce qu'en fait, tu switches d'une maison à l'autre selon les disponibilités.
Oui, alors, ça a commencé comme ça. On est tous dans une volonté au démarrage. Hein, on va dire que parfois on commence par une maison, parfois on s'arrête à une maison. C'est déjà beaucoup, une maison.
Oui.
Moi, j'ai choisi d'en avoir plusieurs, où la vie a choisi pour moi, enfin je ne sais pas trop encore, mais ça veut dire que chaque euro qui rentre, il est réinvesti, c'est toujours des travaux, c'est toujours, je suis quasiment tous les dimanches matin en brocante, il faut remeubler une autre partie, donc c'est un espèce de rêve qui est quand même assez dévorant. Et donc cette vie nomade, au départ, c'est aussi par passion. J'ai toujours rêvé de vivre un peu cette vie-là. Et c'est vrai que je vais d'une maison à l'autre en fonction des disponibilités. Alors la réalité, c'est qu'aujourd'hui les maisons sont assez complètes. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je bloque des périodes pour pouvoir être dedans et tourner. Par exemple, là, depuis avant-hier, je suis à Marseille. Donc, je suis dans la maison de ville, la numéro 2, et je l'ai bloquée 1 mois et demi pour moi. Et donc, ensuite, j'enchaîne sur Somman, que j'ai bloqué au milieu de l'été 1 semaine. Et voilà, j'agis un petit peu comme ça. Et ensuite, j'enchaîne sur l'atelier. Donc, maintenant, je bloque et je suis en train plutôt de modeler voilà, à quel moment j'ai envie d'être à quel endroit. Et je fais comme ça.
Mais alors, tu vis concrètement avec une valise ou tu laisses vraiment des affaires à chaque fois dans chaque maison ?
Alors là, c'est la question qu'il ne faut pas poser. C'est terrible. Je vis avec un sac sur le dos, je reconnais. Voilà.
C'est ça.
Donc, je vis avec un petit baluchon. Donc, c'est pas toujours simple. Hein. C'est une vie qui n'est pas toujours simple. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que déjà, le fait de bloquer des périodes assez longues, Voilà. Et puis après, il y a des endroits où j'ai un petit, voilà, je laisse un panier un peu fermé avec mes affaires dedans. Voilà. Après, je suis pas quelqu'un aujourd'hui qui, enfin, j'ai été passionnée de mode puisque je voulais travailler dans la mode avant, quand j'étais plus jeune. Voilà, aujourd'hui, je vis assez assez léger. Et moi, ma vie, il y a une vie que j'aime beaucoup, c'est sur un bateau. Donc, j'ai des maisons qui sont assez grandes, mais la réalité fait que je suis assez assez tout terrain quand même. Donc je peux me balader avec pas grand chose. Et je vis avec pas grand chose. Voilà, sur le plan
matériel
ouais. Voilà.
Comment se fait le montage financier? Tu arrives à faire l'acquisition d'une maison grâce aux revenus générés avec une autre? Tu as toujours un petit budget pour des travaux via un emprunt? Comment ça se module tout ça?
Alors, moi c'est vrai que c'est sûrement je pense que chaque projet est atypique et très personnel. Moi, j'ai pas eu cette histoire de dire tiens, je veux faire ça et je monte un projet en allant proposer à un banquier, etc. C'est-à-dire que j'ai acheté les maisons, avec mon mari, nous avons acheté les maisons quand on avait d'autres activités. Donc en fait, c'est forcément des emprunts, c'est des fonds propres. Ces maisons sont sous un statut de loueur en meublé non professionnel. J'ai la chance aussi d'avoir une autre activité, puisqu'aujourd'hui j'édite des objets. Et donc la collection d'objets Enamoura, qui est faite par des artisans en Provence, me permet aujourd'hui, enfin je ne vais pas rentrer dans des sujets de fiscalité, mais par contre ça c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, la fiscalité, parce que c'est un vrai sujet quand on fait ce métier-là. C'est-à-dire que, bon, tu le sais très bien, mais il ne faut pas se tromper. Quoi.
Non.
Donc voilà, donc pour répondre à ta question, c'est des emprunts. J'avais un peu d'argent de côté. Et puis, j'ai eu aussi cette... je crois que ce qu'on fait tous, c'est-à-dire on va louer. Il y a une partie de la maison qui n'est pas complètement finalisée par rapport à ce qu'on a en tête. Et moi, mon conseil, c'est d'ailleurs de plutôt louer d'abord plutôt que d'attendre que la maison soit parfaite.
Parce qu'elle ne le saura jamais, de toute façon.
D'abord parce qu'elle ne le saura jamais. et ça, c'est la leçon que j'ai tirée. C'est-à-dire que moi, mes maisons, je les trouve totalement imparfaites. En plus, je les refais assez régulièrement parce que forcément, les projets évoluent, les goûts évoluent. Mais voilà, je pense qu'il faut déjà... Ma logique, c'était toujours, par exemple, si je te prends l'exemple de la maison de Somane de Vaucluse, nous sommes arrivés dans cette maison... Elle était loin d'être décorée, était loin d'être jolie, mais les premiers 20 000 euros que j'ai mis, c'était pour investir dans une piscine, dans le bassin. Donc en fait, j'ai mis 20 000 euros, on a fait le bassin, on a loué la maison quelques semaines l'été, qui ont ramené un peu d'argent, qui ont permis de faire quelques travaux. Et en fait, les premières années, on a fait comme ça. Mais je pense que voilà, mon conseil, c'est de dire qu'est-ce qui va déclencher plus de location, qu'est-ce qui va déclencher un remplissage optimisé. Si c'est par exemple un point d'eau, il faut que ce soit tout de suite la priorité. Et tant pis si la maison n'est pas complètement décorée. Là, on joue sur le prix. Et il vaut mieux louer un peu moins cher pour être complet et puis ensuite augmenter. Bon, moi, ça a été ma stratégie jusqu'à présent. Après, en fonction des biens, parfois j'ai voulu, par exemple, l'atelier d'artiste. Donc, il fait 60 mètres carrés.
À Seignan, du coup, celui-là.
Seignan. Donc là, c'est une maison que je voulais, enfin, c'est pas une maison, c'est le haut d'une maison, mais je voulais avoir un lieu pour accueillir moins de personnes, pour qu'on puisse y aller en amoureux, par exemple, parce que moi, j'ai des maisons qui sont assez grandes, donc c'est forcément un certain prix. Et donc, je voulais absolument que des gens viennent découvrir la Provence en amoureux en hiver. Voilà. C'était ça l'idée de ce projet-là. Et en parallèle, d'avoir un lieu où je puisse accueillir des artistes sur des résidences de moyenne durée. Donc, en fait, l'atelier, c'est un lieu en plus que j'ai rénové dans le style très méditerranéen provençal, qui est très typé. Et à l'étage, il y a un petit espace où on peut travailler la céramique, on peut faire de la musique, on peut écrire. Voilà. Donc c'est un lieu vraiment qui me tenait vraiment à cœur, que j'adore et d'ailleurs que c'est là-bas que je vais pour dessiner par exemple mes collections. Et ce lieu-là, j'ai voulu qu'il soit complètement terminé avant de commencer à louer. J'étais dans cette logique-là. Et malgré tout, on va dire que les deux, trois premiers vacanciers m'ont fait quelques remarques. Mais j'avais aussi besoin de ce chiffre d'affaires-là pour joindre les deux bouts. Alors, généralement, je négocie une échéance de pour les travaux. Enfin, tu vois, mon crédit, je le décale un petit peu pour pouvoir...
Oui, tu fais une franchise, d'un an.
Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, j'ai entendu dire la dernière fois qu'on pouvait aujourd'hui faire... plus qu'un an. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à conseiller de faire le maximum parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des décalages de budget et que il y a rien de pire que d'être à la gorge parce que quand même, la location...
C'est assez imprévisible.
Ouais, et on est obligé d'avoir tout quand même. On ne peut pas se dire... voilà, je prends toujours l'exemple de la patère dans la salle de bain. Voilà, il faut qu'il y ait la patère dans la salle de bain.
Voilà, on peut pas... Tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être d'autres détails qu'on peut, comme tu disais, remettre à plus tard, si c'est vraiment sur la personnalisation, la décoration, mais tout ce qui est utile et pratique doit être, c'est indispensable et doit être prêt.
Exactement, exactement. Et puis, on est tous avec des degrés d'exigence différentes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une clientèle qui aime la déco et qui vient aujourd'hui...
Oui, pour ton style aussi, pour...
Pour le style, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai une clientèle qui me ressemble dans le sens où moi, je voyage d'abord pour le lieu. Là, par exemple, ce week-end, je suis allée dans les Cévennes. Et donc, je vois d'abord un lieu qui me fait envie. Et ensuite, je me dis, bah, tiens, il est dans les Cévennes, c'est formidable. Mais j'ai donc aujourd'hui des gens qui veulent aller d'abord dans cet esprit-là. Ils veulent être dans l'univers Enamoura et... en fonction de la disponibilité, et voilà, ils découvrent, et puis l'année d'après, ils viennent dans un autre lieu de la collection. Et donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quand même un esprit déco, mais voilà, moi, le jardin, pour moi, à Marseille, de la maison de Marseille, n'est pas terminé, parce que je n'ai pas le budget de l'ambition de ce que je veux faire dans ce jardin-là. Bon, aujourd'hui, bien évidemment, il y a sûrement quasiment que moi qui s'en aperçois.
Oui.
Donc voilà, je pense qu'il faut, c'est bien avoir un peu de recul entre ce qui est vraiment indispensable et c'est la fonctionnalité. Et des fois, il y a des choses qui peuvent être remises à plus tard.
Est-ce que tu dirais que Olivier, ton mari, il te permet un petit peu des fois ce recul-là ? Est-ce que lui, il peut t'apporter ce regard qui est peut-être pas prioritaire sur certaines dépenses, certains travaux ?
Dans mon cas personnel, et je sais que c'est très différent et je sais que c'est beaucoup des projets de couple et qui voilà où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Alors dans mon cas, mon mari Olivier n'intervient pas du tout sur ces choix-là. En revanche, lui, son aide cruciale. J'ai la chance qu'il ait des camions parce qu'il a une entreprise et qu'en fait Olivier, il a deux grands talents. C'est un, de peindre. Donc, en fait, on sait tous que la peinture est un budget non négligeable. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui peint les maisons et les repeint régulièrement. Et la deuxième chose, c'est que il me transporte tout ce que je veux. Voilà. Voilà. Donc, ça, voilà. Après, sur la gestion du projet, la gestion décorative, je dois reconnaître que je lui dois un très bon conseil sur une baie vitrée que j'ai fait fixe et non pas pivotante, mais sur le reste, il me laisse faire, voilà. Mais par contre, quand il faut aller chercher des chauffages en fonte dans tout le Vaucluse, acheter sur le bon coin, c'est lui qui prend le camion et qui va les chercher. Donc, c'est quand même extrêmement... extrêmement utile.
Ah oui, je reconnais, c'est top. Aujourd'hui, donc, on a dit qu'il y avait 5 maisons. Est-ce que tu as pour projet de continuer cette collection ?
Alors ça, c'est une question que je me pose tous les jours. Alors, est-ce que la collection me convient ? Je pense qu'un collectionneur, ça ne s'arrête jamais. Donc si, comme le projet, comme je t'ai dit, c'est plus une passion un peu folle et irraisonnée. Non, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la collection n'est pas terminée et qu'à vrai dire, elle sera... aujourd'hui, j'ai envie d'une bergerie, j'ai envie d'un cabanon dans les Calanques. L'envie, j'en aurais toujours envie. Après, aujourd'hui, je suis rattrapée par deux sujets. Le sujet financier, c'est comment... comment je poursuis. Quand je dis je suis rattrapée, il faut savoir quand même que l'immobilier est quand même quelque chose de très attractif. Donc, c'est pas là où on a du mal à trouver du financement, parce que là, évidemment, on parle de financement de société, c'est plus un bien personnel. Mais donc là, trouver des fonds pour développer, par exemple, Enamoura sur la partie immobilier, c'est pas ce qui est un frein aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il faut accepter de rentrer là-dedans. J'ai quand même déjà plusieurs vies derrière moi et c'est quand même plutôt qu'est-ce que j'ai envie de contraintes, de pression pour les années futures. Et la deuxième contrainte, que tu vas comprendre immédiatement, c'est la gestion. C'est la gestion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis sur 3 lieux, donc j'ai 3 équipes différentes, et que la gestion, si tu veux être vraiment au niveau de tes exigences, c'est extrêmement lourd. Et que je ne sais pas si, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont une maison, parfois des maisons d'hôtes ou un gîte ou... bon, c'est déjà très lourd. Bon, là, à 5, je peux te dire que c'est déjà très, très prenant. Et pourtant, moi, j'ai une gouvernante, pas à demeure, mais indépendante. Mais il y a quasiment 10 personnes qui travaillent, puisque dans chaque maison, il faut une personne pour l'entretien, il faut le jardin, il faut la piscine, il faut un plan A, un plan B, un plan C pour gérer les vacances, les maladies. Donc, au final, c'est beaucoup de gens. Et voilà. Donc aujourd'hui, quelle est la suite? Est-ce que je continue à avoir une conciergerie intégrée? Est-ce que je m'adosse à un partenaire? C'est plutôt ça aujourd'hui qui est le frein, en sachant que moi j'ai beaucoup d'autres projets à côté en fait.
Et oui, on va en parler juste après effectivement, et j'imagine qu'il y a un moment c'est compliqué de tout concilier, parce que là les 10 personnes dont tu parles, effectivement c'est une conciergerie qui prend le relais. Est-ce que c'est toi qui a trouvé des locaux, que tu as pris un salarié, comment ça fonctionne?
Non, donc en fait moi aujourd'hui j'ai, donc moi à Enamoura on est 2 à temps plein. Voilà, pour gérer tout le projet de développement commercial, voilà. Et ensuite, en indépendante, j'ai une gouvernante qui gère à distance les différents lieux et celui de Marseille un peu plus. Et j'ai des locaux sur place qui sont soit rémunérés en CESU, mais ça veut dire que voilà, c'est sur le LMNP et pas sur la société, parce que on en parlera après, mais j'ai une autre activité qui est les shootings quand même, hein, la partie B2B comme on dit. Donc j'ai des locaux en effet que je rémunère en fonction de leur statut d'indépendant. Donc en fait j'ai créé une conciergerie intégrée, voilà. C'est-à-dire que c'est moi qui gère la conciergerie. Enfin c'est. Mais voilà, ça c'est tout. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Là je me réorganise sur une zone en faisant appel à une autre gouvernante pour avoir des gouvernantes par lieu, parce que c'est quand même très très prenant ce métier-là. Donc voilà, je t'avoue que j'ai pas la solution, je ne sais pas, ce serait intéressant d'échanger, mais c'est un vrai sujet.
Mm-mm. Parce que les accueils se font en personne par exemple, tu as quelqu'un qui fait les entrées, les sorties, ou ça tu mets peut-être un système de boîte à clé?
Alors moi tout est en autonomie, donc tout est en boîte à clé. Je trouve qu'aujourd'hui, pour ma part, et ça n'engage que moi, que la clientèle qui me suit et qui vient chez Enamoura, ça ne la gêne pas.
D'accord.
En revanche, j'ai un lieu qui ne peut pas être géré comme ça, c'est la chapelle. C'est un lieu très particulier. Oui. Donc, en fait, on est obligé d'accueillir. Donc, en fait, j'ai un lieu où il y a un accueil. Donc, pour finir sur la conciergerie, en effet, c'est un peu ça. Et ça va peut-être être ça qui va déterminer la suite. Alors sans mettre sur le tapis toute la stratégie de développement, mais c'est en effet aujourd'hui j'ai très très envie de développer la collection de maisons, mais en effet ça passera peut-être par quelqu'un qui vous rejoint et qui a envie de gérer cette activité dans sa globalité, parce que Enamoura il y a quand même un gros travail de direction artistique, de communication. Mmh. et moi personnellement je ne peux. Voilà, déjà, c'est Juliette qui travaille avec moi qui va complètement récupérer en toute autonomie cette partie vacancier, cette partie des maisons. Donc voilà, il y a toute une structure derrière où aujourd'hui, voilà, l'avenir le dira bientôt.
Tu as déjà été démarchée par des propriétaires qui souhaitaient te confier leur maison en gestion pour avoir ta patte, un peu la marque Enamoura sur leur propriété?
Oui, alors toutes les semaines. et en fait, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est la particularité, c'est de faire ça. Non, j'ai fait un test. Il y a en effet sur les 5 lieux, il y en a un où je suis en partenariat avec un propriétaire, mais l'expérience. Alors moi, je viens de la start-up, hein, donc ma logique, c'est test and learn. Hein, c'est, on teste, on voit si ça marche, on voit ce qui ne marche pas et on se réajuste en permanence, on adapte. Ce que je propose sous Enamoura est difficilement applicable à ce que à une maison de propriétaire. Je m'explique. Un propriétaire, il va vouloir confier sa maison et en fait, il va vouloir principalement un service de commercialisation, de remplissage de sa saison et de conciergerie. Moi, à partir du moment où il y a une maison qui rentre dans la collection, elle fait partie de l'univers Enamoura, donc il y a plein d'aspects qui ne sont à la base pas demandés, ou en tous les cas qui sont demandés, qui sont souhaités par le propriétaire, mais qui ne peut pas s'offrir, c'est que la maison soit déjà proche de l'univers. Donc si elle n'est pas proche de l'univers, ça veut dire qu'il faut refaire des travaux, ça veut dire qu'il faut la redécorer. Comme je te disais tout à l'heure, moi, toutes les maisons ont mes collections personnelles d'objets, donc ça veut dire que si demain j'avais une maison d'un propriétaire, il faudrait que je la redécore ou que je l'adapte, parce que c'est vraiment pas du tout. Il y a plein de concepts comme ça qui marchent très bien, qui fédèrent. Il y a des gens qui font des choses formidables avec des collections de maisons qui sont très différentes. Moi, Enamoura, c'est tu vas d'une maison à l'autre, il y a un lien. Tu es chez moi.
C'est les mêmes codes. Ouais.
Voilà, c'est les mêmes codes. Donc en fait, pour faire ça et pour respecter cette direction artistique que je veux. Eh bien, il y a ce travail-là, il y a un travail de lancement, il y a un travail de storytelling, de mise en place, de mise en scène, avec la presse. Enfin, il y a tout un sujet qui devient extrêmement coûteux, que je fais pour mes biens, parce que évidemment le profit n'est pas le même, mais qui ne serait pas du tout. Donc, en fait, il y a d'autres possibilités de le faire, mais pas forcément avec des propriétaires, plutôt avec des investisseurs qui auraient envie de dire, ben, voilà... j'ai tant d'argent, fais une maison Enamoura et puis après c'est des deals, mais en tous les cas aujourd'hui c'est impossible pour moi et j'ai fait le test et je m'aperçois que c'est absolument pas rentable de le faire pour d'autres propriétaires.
Le choix des maisons, c'est des coups de cœur à chaque fois ?
Ah oui, oui. et c'est beaucoup de chance.
Ah oui, tu penses que c'est de la chance ou c'est parce que tu crées les opportunités, moi je dirais. Enfin,
la chance et la détermination.
Oui, mais voilà.
Mais non, il y a quand même. Non, mais je vais dire, moi j'ai eu une agence immobilière à Marseille pendant 10 ans. Enfin, j'étais actionnaire et j'ai monté une agence immobilière. On était deux. J'ai eu la chance de tomber sur cette maison à Marseille qui est quelque chose de totalement inespéré. C'est en plein centre de Marseille, à Vauban. J'ai fait aucune concession. Il y a un jardin, une terrasse, un garage, 4 places. Enfin, je veux dire, c'est quasiment introuvable aujourd'hui. Bon, je l'ai trouvé en visitant une maison à côté, en faisant parler le propriétaire de la maison que je visitais, mitoyenne, et qui était un petit peu bavard. Après, moi, c'était mon métier de poser des questions. Et donc, en fait, j'ai compris qu'à côté, c'était en friche et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait creuser. Donc, après, j'ai creusé. Mais il y a quand même une part de chance. J'ai loupé... voilà, on loupe tous des maisons. Faut pas croire. Je pense que tous les gens qui nous écoutent, à un moment donné, ont loupé une opportunité, en ont trouvé sûrement une meilleure derrière. Mais il y a à la fois du coup de cœur, à la fois, tout d'un coup, on engage tout ce qu'on a pour l'avoir. Parfois, on a des déceptions. Parfois, financièrement, on n'y arrive pas. Donc, il faut recommencer. Il faut pas être désespéré. Mais il y a aussi plein de maisons que je n'ai pas eues. Voilà.
C'est vrai, on voit que ce qui se concrétise, mais on n'imagine pas derrière qu'il y en a peut-être eu plein, des visites et des opportunités qui n'ont pas été saisies.
Oui, et puis, tu le racontes très, très bien et tu le traduis très très bien, mais forcément dans notre métier c'est de montrer que tout va bien. Bon, moi j'ai fait présente à 10% de ce que je voudrais sur les réseaux sociaux, et puis j'ai beaucoup d'histoires de rénovation à raconter qui plaisent beaucoup d'ailleurs. Quand je le fais, c'est là généralement où il y a un engouement le plus important, mais on en a tous bavé des ronds de chapeau à mourir sur ces maisons, sur les maisons, et parfois sur les plus petits lieux. Moi, à Marseille, dans la maison, il y a une cabane au fond du jardin, une cabane de pêcheurs. Bon, elle doit faire 15 mètres carrés. La maison fait 180 mètres carrés. Je pense que j'ai plus transpiré et j'ai passé plus de mois sur ces 15 mètres carrés que sur le reste. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même un peu de chance et puis beaucoup de détermination.
Oui, ça c'est certain. Pour les travaux, justement, est-ce que tu as une équipe d'artisans maintenant avec laquelle tu as un certain lien et une relation de confiance et qui intervient sur les différents projets? Est-ce qu'à chaque fois tu changes? Est-ce que tu fais toi-même une grande partie des travaux?
Alors, je vais commencer par ta dernière question. Je vais casser le mythe tout de suite. Moi, je superviser des travaux, dessiner une maison, faire les approvisionnements, piloter tout ça, piloter le budget, c'est tellement de travail, que non, je ne fais rien de mes mains à proprement parler.
D'accord.
C'est-à-dire que déjà, quand je suis sur un projet de rénovation, je pense que tout le monde l'a vécu. S'il y a quand même des délais à respecter, pour suivre les équipes et faire en sorte qu'elles aient le robinet dans les temps,
oui.
Et que ce soit un robinet pour le placo si c'est du placo ou de la pierre si c'est de la pierre, ça c'est juste pour la blague pour ceux qui se sont trompés et
qui s'en mordent les doigts parce que
ou
ça.
Ou ceux qui ont commandé en Chine de la robinetterie qui est arrivée avec 6 semaines de retard et ça a bousillé leur chantier.
Oui.
Voilà, donc petit conseil, achetez d'abord la robinetterie avant de commencer votre chantier. Non, du coup, voilà, moi je fais rien ou quasiment rien de mes propres mains. Je sais que je suis très admirative des gens qui le font. Et par contre, je n'ai pas toujours les mêmes équipes. Je n'ai pas toujours eu les mêmes équipes.
D'accord.
C'est très triste, mais on s'aperçoit qu'on fait un chantier, deux chantiers, parfois trois chantiers. Et puis la relation avec ce distant ou ce... Après, moi, j'ai eu des super maçons qui viennent du Portugal, qui sont repartis dans leur pays. Voilà, donc c'est... Non, hélas, je rêverais d'avoir une équipe qui me suit encore pour les 10 ans à venir. Pour l'instant, je n'ai pas réussi ce miracle.
Ce sera peut-être le prochain.
Ah, peut-être le prochain. Après, j'ai des gens quand même qui me suivent, qui sont en confiance. Mais pour l'instant, je ne sais pas, on verra.
Et en termes, justement, aspect comptable, législation, etc., est-ce que tu avais fait le choix de te faire accompagner? Est-ce que c'était pour toi très simple, que tu as su trouver les informations facilement?
Alors, j'ai commencé en demandant à droite à gauche, j'ai commencé en faisant seule, et puis assez rapidement... On s'en est plus sorti. Enfin,
et oui.
En fonction du volume, ça commence à être assez lourd. La législation, c'est quand même un sujet assez complexe. Le sujet du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui à un moment donné peut basculer en loueur meublé professionnel en fonction, bon, je ne vais pas réexpliquer les règles, mais il faut les connaître. Tout ça, il y a un moment où on a dû se faire accompagner d'un cabinet comptable. Alors, j'ai une personne en or aujourd'hui qui m'accompagne. Et, comme je ne suis pas toujours disciplinée ou surtout toujours très, très dispersée par 1000 activités, j'avoue que je peux y passer 15 jours à m'isoler quelque part pour tout mettre d'équerre à la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est... Non, mais il faut être quand même très rigoureux. Je pense qu'en fonction du volume, je pense que ça vaut le coup de se faire accompagner. Je trouve pas ça très très cher. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que l'accompagnement que j'ai...
Le rapport qualité-prix, c'est...
Ouais, pour le nombre de... J'espère que mon cabinet comptable ne m'entend pas. Mais voilà, je crois que je dois payer 150 € aujourd'hui ou 200 €, mais par mois pour un accompagnement qui est quand même assez lourd, quoi. Qui est pas lourd, voilà, qui est pas lourd... Bon, j'aurais pas dû dire le prix, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, en fait.
Ben non, c'est très peu cher.
Voilà. Attention.
Tu as trouvé vraiment le bon cabinet.
Attention, je paye des sommes beaucoup plus importantes pour la société à côté.
Bien sûr.
Voilà. Mais
bien
pour sûr. Le LMNP, je m'en sors pas mal.
Génial. Aujourd'hui, tu es uniquement sur de la réservation en direct ou tu es aussi présente sur des canaux de distribution ou des annuaires?
Alors, je suis présente sur Airbnb depuis longtemps.
D'accord.
J'ai été dans des agences au démarrage. Je te parle de ça il y a longtemps, hein, quand j'ai commencé. Ensuite, Airbnb a fait un travail formidable, donc c'est devenu incontournable. Donc, j'ai arrêté les agences, j'étais 100% Airbnb. Moi, je ne me suis pas beaucoup dispersée. D'abord, moi, je loue à la semaine et au week-end, donc de toute manière, on n'est pas sur de la nuitée. Donc, c'est quelque chose de très différent. Donc, Airbnb répondait à mes attentes.
Ouais.
Je trouve que quand même, c'est encore un outil extraordinaire. Et plus récemment, comme j'avais de plus en plus une communauté qui se développait sur Instagram, donc des demandes en direct, j'ai fait une analyse des différentes plateformes de réservation en direct, donc des différents channel managers. Mmh. Et donc, j'ai fini par faire le choix des Vivo, configuré il y a quelques mois et avec lequel je suis maintenant. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de réservations en direct, mais qui est aussi liée à ma communauté sur Instagram, qui est assez importante. Ouais.
Tu es contente des Vivo ? C'est l'outil qui te convient bien ? Tu trouves que, pareil, rapport qualité-prix, c'est cohérent ?
Alors, parce que ça, c'est un vrai sujet, et je pense que... voilà, alors, bon, moi, mon métier précédent, c'est le digital, donc j'ai aussi créé et élaboré des plateformes digitales, donc j'estime être quelqu'un déjà d'un peu averti.
Bien sûr.
Je suis contente des Vivo parce que ça répondait à mes demandes et à mes attentes. J'avais des particularités d'avoir des comptes en banque différents sur chaque bien. Et qu'en fait, quand j'ai fait mon benchmark, quand j'ai fait mon analyse, je suis partie avec un autre channel. Je suis allée jusqu'à la configuration quasi complète d'un autre channel pour m'apercevoir à la fin que cet élément-là n'était pas possible. Et donc, tout s'écroulait comme un château de cartes. Donc, j'ai passé énormément de temps sur ce sujet. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de bien poser les questions en amont. C'est vrai que c'est lourd. Il faut savoir qu'à partir du moment où on met le petit doigt dedans, on est aspiré. Moi, je suis très contente des Vivo. C'est un outil qui est extrêmement complet. Donc, comme il est extrêmement complet, eh bien, il peut paraître très complexe. Alors, en revanche, moi, je trouve qu'il y a une... D'ailleurs, j'avais lu beaucoup d'avis sur Evivo avant de basculer, parce que j'ai quand même basculé à une période où j'étais un peu au milieu du guet. Ce qui est très important dans son choix de channel, c'est le SAV, c'est la hotline. C'est est-ce qu'il y a des gens derrière ? Parce que à chaque minute, vous pouvez avoir besoin, dans l'urgence, d'avoir quelqu'un derrière votre channel. Moi, je suis très contente d'Evivo pour ça. Je ne suis pas encore au bout de mes peines sur la configuration et de la maîtrise de toutes les subtilités, parce que c'est très très puissant. Donc voilà, là par exemple, je viens de faire toute la configuration automatique des emails. Bon voilà, donc moi je trouve ça indispensable. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui tout se fait en automatique, les prélèvements, les contrats. Avant, je rédigeais les contrats moi-même, il fallait que je vérifie si les gens avaient fait leur dépôt. Et en fait, c'était devenu quasiment impossible. Donc moi, je trouve qu'un channel. Par contre, mon conseil, c'est quelqu'un qui a une maison, surtout ne pas y aller, quoi. Ça, c'est mon conseil. Voilà. Je trouve
sur Evivo en particulier ou sur un channel manager, tu veux dire ? Sur un channel manager.
Sur un channel manager, je ne sais pas quel est ton avis à toi, mais moi, je trouve que quand même, c'est un investissement de temps qui est pertinent. Moi, je trouve que Airbnb fait très bien le job. Et quand on a des petites... voilà, d'abord, parce que quand on a une petite communauté et qu'on a une petite visibilité... En gros, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. Airbnb fait le job à votre place. Après, il suffit de jouer, évidemment, en permanence sur adapter son minimum de nuitées, sur son prix, sur ses promos. Airbnb offre plein de possibilités. Donc, moi, j'ai envie de dire que j'ai basculé parce qu'il y a eu 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons. Et parce que j'avais une communauté aujourd'hui de 55 000 personnes et que forcément, j'avais besoin d'avoir... une plateforme et que aussi ça prenait tout son sens dans mon activité. Mais j'aurais tendance à dire attention, voilà, c'est quand même un investissement personnel que de basculer sur un channel. Et moi, de toute manière, aujourd'hui, je suis encore sur Airbnb. Hein, donc, voilà.
Oui, c'est ça qui est fou. D'ailleurs, Instagram, tu l'avais commencé il y a très longtemps ou ça t'est apparu comme essentiel plutôt en cours de route ?
Alors, j'ai commencé pas il y a très longtemps. J'ai loué les premières maisons avant d'avoir l'Instagram. Mais une fois encore, j'avais une autre activité, j'étais chef d'entreprise. Donc, ce n'était pas du tout mon activité principale. Moi, j'ai un avis assez tranché sur Instagram, c'est-à-dire que moi, on était premier confinement, j'avais vendu, j'avais quitté ma précédente boîte, je n'avais pas d'activité, je ne savais pas ce que j'allais faire, et en guise, entre guillemets, pas de divertissement pendant le confinement, mais de me dire quand même, Magali, ton métier, c'est quand même la communication, et t'es pas foutu de faire un Instagram, tu pourrais quand même te bouger 5 minutes et le faire. Et j'ai fait l'Instagram et j'avais le temps, confinement. Voilà, après, j'adore faire de la photo, j'adore, ça reste mon métier de faire, voilà, de raconter des histoires. Donc, j'ai fait ça, et la vie a fait que je me suis testée sur quelques opérations de communication, notamment d'influence. Et du coup, ça a pris très vite, qui a fait que malgré tout, il y a eu un intérêt à l'entretenir parce que ça a pris. Moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de travail Instagram. Donc, moi, ma logique pour mes amis que j'accompagne à titre amical dans leurs projets, c'est faire un Instagram vitrine, c'est indispensable parce que, ne serait-ce que pour voilà, rechercher, aujourd'hui, il vaut mieux avoir un Instagram vitrine qu'un site internet presque. Hein,
tout à fait, c'est une galerie formidable.
C'est la galerie, donc il faut avoir ses stories à la une, ce que je n'ai pas moi personnellement, mais c'est toujours plus facile de donner des conseils que
oui,
des
c'est
personnes.
Ça.
Mais, la visite de sa chambre 1, sa chambre 2 et de sa maison, les environs, les bonnes adresses, et d'avoir fait quelques, voilà, un feed sympathique, où, voilà, faire quelques stories de temps en temps. Mais j'ai envie de dire que monter une communauté, c'est un métier du quotidien. Donc, si votre activité quotidienne, c'est de gérer cette maison,
ça sera pas compatible.
Bah, si vous avez qu'une maison et que vous faites ça à plein temps, vous pourrez faire de l'Instagram.
Oui,
mais ça va vous prendre la moitié de la journée déjà. voilà. Donc moi, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus.
Moi, je trouve qu'Instagram reste indispensable. C'est un outil gratuit formidable de mise en avant, de publicité, on va dire, et de visibilité. Donc, je trouverais ça dommage de s'en priver. Après, il faut être conscient de l'aspect chronophage que ça représente. Et je pense que si on n'est pas très... si ça ne nous parle pas déjà de base, il ne faut pas se forcer pour autant. Il faut y trouver du plaisir dans tous les cas. Mais d'un autre côté, je ne peux pas négliger tout l'intérêt que ça peut apporter à l'activité.
Non, voilà, c'est-à-dire que moi, je pense qu'aussi, comme toi, que c'est indispensable. Je pense que si on n'est pas... on se sent pas à l'aise avec de la photo, avec du texte, avec cet outil-là, il vaut mieux confier la mission ponctuelle de faire son Instagram vitrine plutôt que de le faire soi-même et de mal le faire, parce que la sanction, elle est quand même assez immédiate aujourd'hui, où on est quand même où il y a des gens qui font des choses formidables hein, quand même sur Instagram. Et ensuite, en effet, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est chronophage. Donc, moi qui aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 1000 activités et qui à la fois, s'il y a une vraie vocation à le faire, puisque voilà, mon projet de cœur, c'est de continuer à développer les collections d'objets luminaires. Mais voilà, je sais très bien que ça, tout d'un coup, on peut devenir esclave totalement d'Instagram. Donc, et par contre, ça ne va pas remplacer, parce que si vous avez 100 abonnés, 200 abonnés, 2000 abonnés, de toute manière, ça ne remplacera pas la force d'Airbnb ou d'une autre plateforme ou d'un, je sais pas, un booking ou autre chose. Hein. De toute manière, il ne faut pas se leurrer.
Après, ça peut ramener quand même de la réservation en direct.
Ah, par contre, je ne vais pas te dire le contraire. Aujourd'hui, moi, je suis quasiment à 50-50 et ça va sûrement se développer. Moi, je suis d'ailleurs en train d'étudier d'autres façons de commercialiser de manière plus événementielle, plus ponctuelle, puisque moi, les maisons sont complètes quasiment 6 mois à l'avance. Mais donc, tu vois, après, j'ai d'autres problématiques aujourd'hui, mais une fois encore, j'ai pas la problématique des nuitées, moi. Donc, mais c'est vrai que moi, j'ai des problématiques de clients qui reviennent et qui s'y prennent pas à l'avance, et du coup, j'ai plus de place pour eux. Donc, moi, aujourd'hui, il y a tout un. Du coup, c'est comment fidéliser, comment pas décevoir ma communauté en fait. Donc, en fait, c'est quasiment de garder des phases ouvertes. Par exemple, j'ai ouvert une ce matin, je ne l'ai pas encore annoncé, mais j'ai gardé cette phase pour que tout d'un coup, il y ait quelqu'un qui puisse au dernier moment se dire tiens, j'ai aussi l'opportunité. Sinon, il y a des gens, ils me disent mais attends, la maison de Soman, il faut la réserver l'année d'avant. Mais je dis oui, en janvier, c'est fini, c'est complet pour l'été. Donc, ça, c'est des problématiques qui sont très particulières aux maisons. Et de la grosse saisonnalité. Mais Instagram, c'est formidable. Et puis surtout, Instagram offre une autre possibilité, enfin, les plateformes aussi. C'est le B2B. c'est les shootings. Voilà. Donc ça, c'est en effet une autre activité.
Tu en fais beaucoup aujourd'hui ?
Oui. Mais oui, aujourd'hui...
Ça complète les locations plutôt dites de loisirs ? Effectivement, et donc ça permet de compléter sur des périodes plus basses ou même pas, puisque finalement tu aurais quand même des réservations sur ces périodes-là.
Chaque bien a sa spécificité. Hein. Aujourd'hui, Marseille, c'est devenu, ça a explosé totalement. Donc c'est une ville aujourd'hui qui n'est plus saisonnière, quasiment plus. Bien évidemment, on a moins de demandes au mois de février qu'au mois de juillet. Mais voilà, on est quasiment dans quelque chose qui est annuel. Voilà. Donc, je trouve que le shooting est un bon complément. Attention, hein, bien évidemment, c'est exigeant, c'est très exigeant. Donc voilà. Après, moi aujourd'hui, par exemple, la maison de Marseille, c'est aussi une maison qui aujourd'hui est le siège social de la marque. C'est aussi le showroom. C'est aussi là où je reçois. Les clients architectes, c'est l'endroit où on travaille avec les équipes. Donc, par exemple, voilà, je suis obligée aussi de la garder, de la fermer aux vacanciers, mais je peux du coup la garder en journée, puisque je loue à la journée pour les shootings. Donc, c'est quelque chose de complémentaire. On ne peut pas dire que les maisons pourraient tourner que sur du shooting, ce serait complètement mentir. On n'est pas sur du 50-50 du tout, ça reste... Mais voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le concept Enamoura, c'est une partie non négligeable.
C'est toi qui démarches les marques ou c'est elles qui te contactent ?
On va dire que à 90%, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était les marques qui me contactaient. Airbnb, Instagram. On a développé, donc depuis que Juliette m'a rejoint, une démarche plus proactive sur ce domaine-là. Mais en fait, tout se rejoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mes différentes activités, il y a beaucoup de synergies. Donc, on fait très peu de prospection.
D'accord. On me demande souvent comment positionner son tarif pour les shootings, parce que les chambres d'hôtes, les gîtes sont de plus en plus sollicités pour cette initiative. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour savoir comment construire sa grille tarifaire propre aux journées de shooting ?
Ça suit la même règle que tout positionnement tarifaire. C'est une question d'offre et de demande, c'est une question de marché. Donc en fait, il faut faire son benchmark, c'est-à-dire que combien se louent les autres maisons qui sont autour, s'il y en a, ou combien se loue une autre maison dans une autre région que la mienne. Voilà, il faut avoir une petite idée. Puis après, il faut faire un premier tarif. Et puis, c'était très rapide, hein, parce que c'est des négociations à chaque fois. Donc, à chaque fois, ça dépend. Mais voilà. Et puis après, là aussi, c'est du test and learn. Tu vas mettre en place ton tarif. Tu vas le tester la première fois. J'ai envie de dire, il ne faut pas être figé sur les premières fois. Nous, aujourd'hui, on connaît notre prix. Mais parce qu'on a 2 ans d'expérience. On sait qu'on n'est pas très élevé, mais aussi on est sollicité par des marques au profil complètement différent. Pour certaines, ça va être exorbitant, d'autres, ça va être normal. Donc, tout dépend aussi après de ce que vous voulez faire. Après, on rentre dans des tactiques commerciales. C'est-à-dire que, moi, j'ai envie de dire, si vous voulez faire du shooting, au début, vous testez. Et puis, voilà, après, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est un gros investissement personnel et c'est un coût, hein, donc il ne faut pas non plus baisser pour qu'à la fin ce soit pas rentable. Moi, il m'est arrivé, il y a eu sûrement des shootings que j'ai fait à perte parce que c'est un certain coût de mettre en place un shooting. Ce n'est pas tout à fait le même coût non plus.
C'est justement, qu'est-ce que tu proposes comme service ? Est-ce que tu fais du traiteur ? Est-ce qu'il y a une personne dédiée toute la journée pour pouvoir répondre à toutes les questions et avoir un rôle peut-être un peu de gouvernante ?
C'est quand même un accompagnement plus important. Donc déjà, il y a un accueil et un au revoir, un check-in, un check-out. Bon, ce que moi, je ne fais pas pour les vacanciers, mais parce qu'il y a une présentation de la maison, il y a une vérification, il y a une prise de... Bon, si le dépôt n'a pas été... il faut le récupérer, il faut faire un check à la fin de la journée. Évidemment, nous, aujourd'hui, on accompagne, on fait de la... le mot est un peu fort, mais enfin, un peu de production, c'est-à-dire que on a évidemment les coordonnées d'un maquilleur, on a les coordonnées du coiffeur, on a des documents spécifiques pour les shootings, pour que les gens puissent se projeter, on a des conseils sur la luminosité pour le photographe, on peut répondre à différents appels, celui du photographe, de la direction artistique, voilà, on peut réceptionner de la marchandise en amont, tout ça c'est une logistique, voilà.
D'accord.
Et puis il y a des gens qui font ça très bien, qui font aussi carrément la cuisine, le catering. Donc nous, on a des gens qu'on conseille, il y a des gens qui sont habitués à venir dans la maison pour faire ça, donc on les met en relation. Voilà, il y a une forme de produit, ce qu'on appelle de la production, qu'on appelle conciergerie sur les vacanciers, mais c'est voilà.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Est-ce qu'il t'est arrivé de refuser des marques parce que tu t'estimais qu'elles n'étaient pas en accord avec ta vision des choses, avec les valeurs et avec l'état d'esprit des maisons?
Très bonne question, ça. Ça m'a beaucoup turlupiné,
ouais.
pour dire la vérité. Quand on est sur un lancement de marque, forcément. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'on est souvent très surpris parce que sa maison, shootée par différentes marques, elle ne se voit quasiment pas. Enfin, on ne la reconnaît quasiment pas.
Et oui.
Déjà, ça a été assez rassurant pour moi de me dire, tu vas pas être obligé de faire une sélection qui, malgré tout, soyons francs, on est là pour parler. Ça coûte très cher de développer des maisons, donc on a besoin de beaucoup d'argent. Donc les shootings, c'est aussi une manière de dire, bah tiens, je fais réparer le liner ou je fais la salle de bain supplémentaire. Après, j'ai la chance, sincèrement, d'avoir quasiment que des jolies marques qui nous sollicitent. La question, c'était de dire, quand on a des marques similaires, comment on se positionne. La réalité, c'est que j'ai pas eu de problème jusqu'à présent.
Non, mais c'est super, c'est que tu as tellement bien installé ton image de marque que celles qui te sollicitent pour faire leur shooting sont en cohérence parce que c'est déjà limpide dans la direction artistique, dans les valeurs que vous partagez, etc.
Voilà, et même si un jour une marque vous sollicite, je dis ça aux gens qui nous écoutent, mais si elle est vraiment très différente de votre univers, les communautés ne vont pas se croiser.
Et oui. Parce que tu peux utiliser les photos qui sont faites pendant un shooting.
Je le fais jamais.
Est-ce qu'on te...
Jamais. Non. Jamais. Je le fais jamais, pas parce que je... En fait, si tu me suis, je communique absolument pas ou quasiment pas, ou c'est extrêmement rare sur le shooting sur la
photo. Tout à fait, ouais.
Ce qui, de temps en temps, embête Juliette, qui est responsable du développement commercial. Mais non, mais en fait, il y a des gens qui le font très bien. Je pense à plein de maisons Mastroianni.
Mastrorelli.
Merci, oui.
Céline.
Voilà, qui fait ça très bien. Marine au Moulin. Il y a des gens qui font très bien. Bon, une fois encore, nous, on fait tellement de choses qu'on fait... Moi, personnellement, je trouve que je fais tout très, très mal. Donc, en toute honnêteté, aujourd'hui, je fais tout très, très mal. Donc, je pense je pourrais très bien le faire, mais ça passe toujours après le reste. Voilà. Donc, non. Okay, voilà. Mais du coup, je n'utilise pas les photos. Après, je pas demander. Là, il y a une très jolie marque qui vient de shooter à la maison. J'ai hâte de voir les photos. C'est toujours super de voir les photos après.
Ah oui, j'imagine. Est-ce que tu penses qu'il y a des codes à respecter pour pouvoir attirer les marques? Parce que beaucoup sont conscients que ça peut être un super complément de revenus, comme tu l'as dit, on n'est peut-être pas remarqué ou la maison ne séduit peut-être pas. Est-ce qu'il y a des petits tips qu'on peut appliquer pour essayer de leur faire de l'œil?
Oui, forcément, il y a des tendances. Donc, moi, je pense quand même que... Déjà, il faut qu'il y ait une authenticité, une personnalité, une cohérence dans la maison. C'est-à-dire que si vous êtes en Bretagne, il faut que dans la maison, il y ait une âme, en tout cas, c'est mon ressenti. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une âme qui soit en cohérence avec l'histoire de la maison. une marque, elle vient shooter une âme. Elle vient apporter de l'âme à ses produits. Donc, votre maison et votre décor, il est là pour apporter une histoire. On va raconter une histoire autour d'un shooting. Donc, il faut que la maison, elle ait une histoire et qu'il y ait beaucoup de sens et de cohérence. Donc, forcément, si votre maison bretonne, il n'y a que l'IKEA à l'intérieur, pour ne pas citer le nom, peut-être que la marque, enfin, je sais pas, alors que par exemple, si c'est mixé, moi je suis une adepte du mix, bon, même si moi j'ai quand même beaucoup, beaucoup de choses chinées, mais on peut très, très, il y a des gens qui font ça très, très joliment de mixer des styles. Mais il faut qu'il y ait une âme, quoi. Voilà. Pour moi, le seul conseil que je donnerais, c'est respecter l'âme de la maison. C'est quoi l'histoire de la maison? C'est quoi sa pierre? C'est quoi son authenticité? Et comment je peux accentuer, sublimer cette âme avec une décoration qui va l'épouser plutôt qu'il va être en rupture.
Et oui, là, qui sera tout à son service.
Voilà, qui sera à son service. Et là, tout. Et c'est pas plus cher, hein. C'est pas plus cher. Moi, clairement, je suis pas là pour rentrer dans les détails, mais vous avez la literie qui est un investissement colossal. Après, moi, je récupère tout sur place, je récupère dans la rue, je récupère sur les marchés. Bon, voilà. Après, on peut meubler une maison avec beaucoup d'âme, sans forcément beaucoup d'argent.
Bien sûr.
Mais il faut qu'il y ait de l'âme. Et une marque, elle va venir pour votre âme. Et l'âme, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Moi, aujourd'hui, ils viennent chercher une certaine authenticité, une intemporalité, mais ils viennent pas chercher la même chose à la chapelle qu'à l'atelier d'artiste. Voilà. Après, il y a des tendances que forcément, si vous êtes un peu plus à l'écoute de l'air du temps, vous serez un peu plus à l'écoute. Les gens qui sont à la tête de ces marques et du choix de la maison, ils sont à la tête de l'air du temps. C'est leur métier. Forcément, ils vont faire un choix, quelque chose dans l'air du temps. Être dans l'air du temps, c'est potentiellement choisir un masque provençal dans son jus. Mais voilà, ça reste dans l'air du temps. En ce moment, la Provence est dans l'air du temps.
Oui, et puis les matériaux bruts, le côté wabi-sabi.
Voilà.
Tu l'as dit, authentique, hein, très rustique presque. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi? La journée type de Magali, c'est quoi?
Alors là, c'est une question impossible à répondre, mais par contre je vais tenter. Non mais je me réveille assez tôt et je travaille dans mon lit jusqu'à à peu près 9h, donc je peux être de 6h30 à 9h à traiter la messagerie sur Instagram, à traiter les urgences, les mails,
etc.
Voilà, ensuite je peux c'est difficile. Moi je suis je peux être avoir un rendez-vous dans un atelier avec un artisan pour la collection, je peux être en ligne avec la gouvernante parce qu'il y a une problématique, je peux être avec un entrepreneur parce qu'on est en train de refaire le toit à Saignon, ensuite je vais enchaîner pour essayer de trouver un partenaire qui livre des draps et étudier des devis. Ensuite il y a de la communication, ensuite il y a de la comptabilité. Bon, tu le dis très bien, tu le résumes très bien. Je pense qu'il n'y a pas de métier plus divers et varié. Enfin, voilà. Et comme moi je rajoute, je fais des guides, il y a de la communication, il y a des partenariats, il y a des collabs, il y a un réseau de distribution. Il y a maintenant on va exposer les objets dans un musée. Enfin, voilà. Donc moi ça part un peu dans tous les sens quand même. Voilà. Et Juliette me dit, tu n'as pas de routine en fait. Non, j'ai pas de routine.
Mais tu t'imposes aucune limite
sur mes idées,
sur des opportunités.
Sauf quand la vie vous rattrape et je pense qu'elle me rattrape de temps en temps qu'en effet, je pense qu'il faut quand on est entrepreneur, on peut faire 24/24. Quand vous avez une maison d'hôte ou une maison de vacances, c'est pareil, c'est 24/24. Quand vous êtes passionné, c'est 24/24. Si vous réunissez les trois, alors là, c'est voilà. Donc en effet, j'ai pas de limite. Heureusement, j'ai des enfants, j'ai des contraintes, j'ai un mari, j'ai des amis, donc il faut. Mais c'est vrai que c'est un peu. Enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, je vais pas m'allonger là. Mais c'est ma maladie à moi, voilà, de ne pas savoir m'arrêter. Donc là, voilà. Donc heureusement, je suis très bien entourée d'un mari d'un côté qui sait me poser des limites, et puis de Juliette aujourd'hui qui, voilà, qui a aussi, qui est mon parfait binôme et qui sait me dire là, on fait un choix ou là, on fait ça dans 6 mois. Mais je pense aussi que ça dépend à quelle vitesse on veut aller aussi. C'est-à-dire que et puis parfois, enfin, créer sa société, créer son salaire, créer le salaire pour les personnes qui vous entourent, ben, il faut aller chercher chiffre d'affaires. Donc en fait, parfois, on est aussi dans une spirale, c'est qu'il faut y aller, quoi. On n'a pas le temps de. Donc il faut saisir toutes les opportunités. Et il y a un momentum, comme on dit en start-up, il y a un momentum. Mais moi, j'ai des amis qui ont très proches, hein, qui ont acheté une maison en Provence à 5 km de Somane et qui l'ont rénovée seule, et ils ont fait énormément de choses seuls. Ils se sont mis à la limite de la possibilité physique et ils m'ont fait très très peur. Ça s'est évidemment terminé par un accident. Moi, et en fait, elle se reconnaîtra, mon amie était dans le stress absolu d'arriver à louer, etc. Au final, elle est complète aujourd'hui, sa maison est sublime. Mais je pense quand même que la plus grosse erreur, c'est de pas prendre de vacances quand on fait ce métier-là. Moi, aujourd'hui, mon plus gros problème, c'est de pas savoir prendre de vacances et de pas savoir les organiser. Et pourtant, je suis suivie par plein de maisons d'hôtes qui régulièrement me disent « Mais viens, viens te reposer à la maison, etc. » Et en fait, voilà, on va dire que moi, mon projet aujourd'hui, c'est de dire « Apprends à prendre des vacances aussi, c'est ton métier pour les autres, mais maintenant, il faut que tu arrives à prendre tes week-ends, il faut que tu arrives à partir, il faut que tu arrives à voyager, voilà. » Donc ça, c'est mon enjeu pour l'avenir. Et mon conseil, quand on fait une maison d'hôtes, c'est que malgré tout, il y a un moment, il faut tout lâcher, il faut s'accorder une semaine et pas dans sa maison.
Je suis bien d'accord, parce que pour l'avoir vécu, les vacances que je prenais, c'était dans la maison pour pouvoir faire du bricolage, des peintures, des petites améliorations, donc qui n'en sont pas finalement. Et puis ben, après, on frôle le burn-out, c'est un mot un peu, un peu trop tendance qui m'énerve, mais c'est la réalité.
Ouais, exactement.
On s'épuise, ouais. Mais très bon conseil. Est-ce qu'on arrive à le prendre?
Ben écoute, on se reparle dans un an et je te dis si j'ai réussi à le mettre en
œuvre. Ah oui, j'espère. Tu fais aussi des city guides, j'ai vu ça, c'est des carnets de vacances. Ouais. Est-ce que c'est toutes tes adresses favorites? Est-ce qu'il y a un petit peu de partenariat dans ces city guides ou c'est réellement tes adresses fétiches?
Alors, aujourd'hui, il y a zéro partenariat sur les guides. Mmh. Et même plus loin, c'est que c'est un formidable outil que je n'exploite pas du tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ces guides, ils sont venus même avant la collection de maisons et avant la marque. Le guide, c'est un projet parce que bon, on vient pas dans ce métier-là si on n'aime pas recevoir les gens et donner des conseils sur sa région. Donc en fait, j'étais déjà noyée de demandes. Moi, j'ai pour habitude de raconter que ma mère, quand j'étais petite, elle prenait les gens en stop, elle leur filait les clés de la deux chevaux et puis elle leur griffonnait sur un papier tout ce qu'il y avait à faire en Provence. Donc je veux dire, ça vient de loin. Et par contre, moi, j'ai un principe, ou plutôt un défaut, mais je ne supporte pas de faire deux fois la même chose. Donc en fait, dès que je fais quelque chose, je préfère prendre un peu de temps, essayer de le faire bien et de l'automatiser. Donc en fait, il y a un jour, à force d'être sans arrêt à donner et à être sollicitée toute la journée, et comme je ne sais pas dire non et comme j'ai envie de faire plaisir, ben, toute la journée, je prends du temps pour répondre aux gens. Il y a un moment donné, pour mes propres amis, j'ai dit, je vais faire un guide et je vais dire, ouais, j'ai commencé par le guide Marseille. Donc c'est 4 jours à Marseille et c'est pas 4 jours pour visiter Marseille, c'est 4 jours pour vivre Marseille. Donc c'est, tu te lèves le matin, le café tu vas le prendre à tel endroit parce qu'il y a le soleil sur la terrasse, après tu fais ci, là tu plonges des rochers à tel endroit, voilà. Donc c'est un guide qui est très art de vivre, lifestyle à Marseille. J'ai donc des adresses où je dis où petit déjeuner, où manger, où prendre le goûter. Goûter, très important. Et j'ai associé ça à une carte géolocalisée où il y a quasiment 200 adresses pour les gens qui vont sortir de ce parcours-là et tout d'un coup vont quand même avoir envie d'un conseil. Donc aujourd'hui, je l'ai formalisé et je l'ai professionnalisé. D'ailleurs, ces guides, ils sont en vente sur mon site. Donc quelqu'un qui vient pas chez nous peut l'acheter parce que c'est tout aussi utile. On vient de sortir le guide de Provence où là, c'est 8 jours en Provence. Là, c'est vraiment costaud. Le guide de Marseille, il est traduit en deux langues. Le guide de Provence, il sera traduit en deux langues cet été. Donc, c'est vraiment des très jolis projets. Mais j'ai mis quasiment un an à faire, voire plus. Et par contre, quand vous réservez un séjour chez Enamoura, vous recevez un code personnalisé pour le télécharger. Et là aussi, l'intérêt, c'est qu'évidemment, on gagne du temps.
Bien sûr.
Donc, sinon, vous passez votre temps à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive à lui répondre gentiment à tout ce qu'il a envie de faire. Et donc, toutes les semaines, vous recommencez. Moi, si j'avais qu'une seule maison et que j'étais dedans et que bah, je le ferais, je trouverais ça chouette. Mais aujourd'hui, matériellement, je suis dans l'incapacité de le faire. Donc, j'ai préféré faire en mon nom et à la première personne ce que j'aime et le transmettre à toutes les personnes. Et bien évidemment, s'ils ont une question complémentaire, on est toujours en temps réel, on répond 24/24. Ça, c'est la gouvernante qui le fait.
Ah ouais, je trouve que c'est formidable, c'est une prestation super et que pour les locataires, il n'y a pas mieux. Effectivement, après, ils vont piocher dedans pour aller, comme tu dis, prendre le goûter, faire une baignade et autres. Et c'est un livret d'accueil formidable.
Ouais, voilà, je pense que c'est vraiment... Enfin, en tout cas, c'est... j'ai fait ce que j'aurais aimé avoir. Moi, j'aime pas... Je devrais pas dire ça à heure de grande écoute. Mais moi, je suis très feignante pour organiser les vacances et j'aurais adoré qu'on me ponde le truc comme ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait ce que j'aurais aimé avoir pour moi et ça fonctionne plutôt bien parce que quand vous êtes à la tête d'un gîte, ben, au moins, vous faites ça en moins. Vous faites... Mais par contre, c'est beaucoup de travail. Là aussi, c'est pareil. Moi, de temps en temps, on me demande des conseils. Voilà, est-ce que vous avez la capacité de passer des mois sur ce projet-là ? Parce que c'est des mois, il faut le mettre en maquette, il faut le digitaliser. Bon, voilà, chaque fois, c'est du temps.
Et tu as encore à côté tes collections ou des... C'est pas des collections, des éditions en série limitée avec des artistes, des créateurs, des artisans. Et comment tu trouves le temps ? C'est pas possible.
Je le trouve pas. Donc, je recrute d'ailleurs. Je recrute là.
J'envoie mon CV.
Une stagiaire, on recrute une alternante pour nous assister dans tous ces projets. Non, alors, cette activité-là, je pense que c'est vraiment le prolongement d'un rêve de toujours que j'ai mis plusieurs dizaines d'années. À
concrétiser.
À assumer, à concrétiser. Donc, Enamoura, la partie édition d'objets, ça part aussi d'une envie profonde, c'est qu'une fois qu'on dessine une maison, la première chose, en tous les cas, moi, souvent, la première chose, une des choses essentielles pour moi, c'est l'éclairage.
D'accord.
Voilà, parce que moi, je traite les maisons comme une scénographie. Et dans une scénographie, l'éclairage est très important. Moi, ces maisons, ça doit être des décors de bonheur. Enfin, je le conçois comme ça. C'est-à-dire qu'on doit, dans chaque pièce, être transporté dans une ambiance, dans un univers, parfois dans une autre époque. Et on doit vivre des moments où on se sent bien, on se sent beau, on se sent heureux. Donc, l'éclairage est très important. Un éclairage blanc, ça ne vous rend pas heureux, ça ne vous rend pas beau, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi. Et que je travaille en différents niveaux, c'est-à-dire il y a un éclairage de confort, il y a un éclairage d'ambiance, il y a des éclairages d'appoint pour certaines ambiances. Et donc en fait, à un moment donné, j'ai eu envie de prolonger le dessin que je faisais des maisons jusqu'aux éclairages. Et comme en fait tous mes objets qui meublent les maisons sont des objets qui ont déjà eu 1000 vies puisqu'ils ont été chinés, eh bien j'avais envie d'avoir des objets qui soient à la fois emblématique de la Provence et des savoir-faire provençaux, du moins méridional, midi au sens large. Et du coup, j'ai fini par assumer de dessiner ces objets. Donc, je fais à la fois des collections permanentes que je dessine et que je travaille avec des artisans qui ont chacun un savoir-faire spécifique. Donc, il y en a qui vont maîtriser le grès, chamoter, il y en a qui vont maîtriser la technique du tour, l'estampage, ou frapper, les assiettes sont frappées. Et ensuite, je réinterprète des formes, soit que j'ai déjà chinées par le passé de ma collection personnelle, mais des formes ancestrales aussi, vraiment intemporelles plutôt qu'ancestrales. Et je vais les réinterpréter avec un savoir-faire différent. Donc, par exemple, la collection de suspensions Lisette et ses sœurs, en hommage à ma grand-mère et à ses deux sœurs, Ursule et Yvonne, c'est des suspensions émaillées traditionnelles qu'on a tous vues dans nos granges ou dans nos cuisines. de nos grands-mères. Mais au lieu de les faire dans un métal froid, on les a faites en céramique, on les fait en grès, on les fait aussi en tressage. Et donc, du coup, ça leur donne une autre chaleur, une autre sensualité. Et quand on les met dans les maisons, et bien en fait, on a le sentiment qu'elles ont toujours été là. Donc ça, c'était vraiment la ligne de conduite de cette collection de luminaires, puisqu'aujourd'hui, c'est quasi essentiellement des luminaires. Et je fais une fois par an des résidences d'artistes ou des collaborations avec des artistes ou des artisans. Donc on a fait une première collaboration avec Franca Atelier qui travaille aujourd'hui, qui redéveloppe la terre mêlée, qui a un savoir-faire ancestral d'Apt, là où sont les trois lieux à Seignon. Donc j'ai aujourd'hui la terre mêlée dans la collection permanente, comme la terre cuite qui est faite à Aubagne. J'ai fait récemment une collaboration avec Marion Gros, la potière parisienne, qui travaille le grès. Et on fait des séries limitées, numérotées de 48 pièces. Et voilà. Donc en fait, coexistent aujourd'hui des collections permanentes qui sont aujourd'hui vendues sur notre site internet, sur des pop-up que l'on fait dans nos maisons ou dans des lieux. Là, par exemple, on va être à l'hôtel Galifet à Aix-en-Provence tout l'été. Je ne peux pas tout dire, mais il y a plein de choses qui arrivent aussi derrière. Et voilà. Et là, on vient de lancer une applique et on vient de lancer une collection de porcelaine. Donc là, c'est de la porcelaine de Limoges. C'est fait à Limoges. Donc, ce sont des formes qui étaient normalement faites en opaline et que l'on a réinterprétées en biscuit, donc mat ou bien émaillé. Et là, c'est la collection Maria des Fleurs, du nom du mas dans lequel j'ai été élevée. Et donc, il y a deux modèles, un modèle Maria et un modèle Lily, qui est le surnom que ma mère me donnait. Et là, on a vraiment une... Donc, c'est de la porcelaine, c'est fait à Limoges, c'est pas fait en Provence, mais la porcelaine fait partie quand même de la tradition de l'art de vivre provençal. On avait des assiettes en porcelaine dans nos masses. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est un an de travail de développement pour en arriver à une collection permanente, là, qui est d'ailleurs pas complètement encore dans son intégralité en ligne. Mais voilà, ça, c'est vraiment un projet qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. Et donc, récemment, les gens ont découvert les maisons grâce aux objets et pas l'inverse.
Et oui.
Donc, ça va être une première, voilà.
C'est drôle, c'est effectivement. Et est-ce que les locataires peuvent partir avec une lampe sous le bras ?
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, à Marseille, j'ai l'atelier qui est au rez-de-chaussée de la maison, dans le garage. Donc on a aménagé le garage, donc ça c'est mes derniers travaux. On a fait tout en pierre apparente, enfin revenir la pierre originelle du garage et refait une dalle. On a des meubles de métier qui servent comme dans le temps, c'est-à-dire nous à nos assemblages de lampes, à nos expéditions. Donc on a un petit atelier à l'ancienne au rez-de-chaussée de la maison de ville à Marseille. Et donc les gens peuvent venir, un, pour voir les collections, elles sont exposées. Donc ce petit pop-up, cette petite boutique, elle a été transposée à Aix-en-Provence pour le salon Côté Sud il y a quelques temps. Mmh. Et voilà. Et du coup, donc on peut venir chercher les objets en click and collect. Donc les commander sur le site et les venir les chercher là. Les personnes qui viennent en vacances repartent forcément et vivent au milieu de ce petit pop-up puisqu'il est au rez-de-chaussée et donc peuvent repartir avec leur suspension, leur lampe. À Seignon, il y a le petit concepteur de Seignon, Julie, va avoir les lampes. Donc en fait, les trois lieux qui sont à Seignon pourront aller chercher leurs lampes et les objets Inamura en partant. Ou en arrivant d'ailleurs. Voilà, donc tout ça prend forme petit à petit.
Superbe.
Et puis, bon, il va probablement y avoir des points de vente dans pas longtemps.
Ah, on a une exclue.
Voilà. Je vais voir si j'arrive à tenir à ne pas la dire jusqu'au bout. Mais...
Super.
Dire qu'en septembre, il y aura un point de vente parisien. Voilà, c'est dit.
Ah, on a hâte. On a vraiment hâte de voir ça. Depuis le début, quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée ?
Tu veux dire sur quoi j'ai versé le plus de larmes de mon corps ?
Oui, de sang, de larmes.
Les travaux ?
Les travaux, oui. D'une maison en particulier ? Ou...
Oui. Ouais. On va dire que l'atelier... Alors, il faut savoir que quand même, ce n'est pas moi qui suis la maman de la rénovation de la chapelle et de la petite maison qui ouvre là au 1er juillet. C'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire avant moi, donc c'est le voilà, c'est mon partenaire. Et mais sur les autres maisons, l'atelier qui est le plus petit lieu que j'ai, qui fait 60 mètres carrés, dans lequel j'ai tout refait en plâtre et en bâti, tout en l'ancienne. Et pour plein d'autres raisons, j'ai fini par passer 2 mois en combinaison au sol, à être tous les jours sur le chantier et à pas savoir si j'allais m'en sortir. Voilà. Donc ça, c'est dur.
Et tu t'en es sortie.
Et pendant toute cette durée, je me suis dit, Magali, rappelle-toi, dans un an, tu seras contente et ce sera joli. Voilà. Parce qu'en fait, moi, mon doute, c'est que pendant toute la durée des travaux, comme je dessine et je rénove au fur et à mesure, je me dis, là, tu vas te planter. Là, à la fin, c'est comme un tableau, en fait. Je pense que c'est comme un artiste, il dessine son truc. Moi, je suis pas archi d'intérieur, c'est pas mon métier. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, à force, je commence à avoir une forme d'expertise, mais c'est pas mon métier. Donc, en fait, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup d'instinct. Et ben, on se plante quand on fait quelque chose. On l'a tous fait. On a tous fait, je sais pas moi, une peinture qui était pas la bonne couleur. Voilà. Donc moi, je fais des choses et je me trompe. Et en fait, réussir un joli tableau à la fin, ben, on a remis un certain nombre de couches et de gouaches par-dessus. Et donc parfois, je me trompe. Et comme je n'accepte pas que ce soit pas bien, ben, je recommence. Mais parfois, recommencer, ça, c'est très dur. Donc oui, le plus dur, je trouve que c'est les travaux. Donc tous ceux qui sont en train de terminer les travaux, dites-vous que c'est déjà pas mal. Et après, je trouve quand même que là, après, c'est un métier qui est difficile. Hein. Je pense qu'il faut beaucoup de gens le fantasment. Tu racontes ça très bien. Tu mets très bien en garde. C'est un métier de liberté. Quoique parfois, c'est une liberté très relative. Donc, je pense que j'ai plein de petits conseils qui me viennent à l'esprit, mais parfois, on veut se faire plaisir. En ce moment, je suis sur un sujet, j'espère que bon, tout le monde ne va pas m'entendre, mais bon, par exemple, on a envie d'avoir un carré de verdure, voilà, d'herbe. Bon, bah, en Provence, un carré d'herbe, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes, parce qu'il va jaunir, parce qu'il faut le tondre. Voilà. Donc, je pense que parfois, il faut s'alléger et se dire, attention, qu'est-ce que je fais? Oui, mais moi, je veux accueillir, mais... Voilà, est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas saturer au point que le client il va arriver, tu auras envie de lui crier dessus, quoi. Donc, il faut vraiment se ménager quand même. Il faut savoir. Et puis, c'est pas. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai écrit des guides, j'ai passé du temps, j'y ai mis beaucoup de cœur. Ben, si quelqu'un ne me voit pas à l'arrivée, il va me suivre sur Instagram. On va transmettre quelque chose différemment. On n'a pas besoin d'être en personne. C'est formidable, bien évidemment, quand moi, je suis là. Ben, moi, j'ai énormément de plaisir à rencontrer les gens qui arrivent. Pour eux, j'imagine que c'est une expérience aussi un peu plus différente, riche de me rencontrer, mais à quel prix, voilà.
Alors, c'est super de le souligner, merci beaucoup. Bon, on va faire à contrario, quel est ton plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui?
Alors, écoute, je réfléchis, il y a... alors tu sais, moi je suis très émotive, hein, donc je fais quand même des maisons d'amour pour que les gens soient heureux, donc forcément je suis quelqu'un qui est particulièrement dans l'émotion. Je pense que rendre hommage à ma grand-mère, c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc ces objets sont très importants pour moi, donc c'est un rêve absolu, et je pense qu'au mois de septembre je réalise un rêve qui peut-être sera totalement anodin pour les autres, mais ces objets en hommage à ma grand-mère vont rentrer dans un magasin qui est un lieu qui est somptueux et emblématique. Voilà. Et pour moi, c'est une consécration personnelle qui n'a pas de valeur financière, mais qui a une énorme valeur affective. Donc ça, c'est un très beau souvenir. Et le deuxième, quelqu'un m'a dit récemment, on a décidé de venir habiter Marseille. Quand on s'est retrouvés dans ta maison et on a pris la décision de tout quitter en une heure dans ta chambre et ça a été la plus belle chose qu'on ait faite et on est extrêmement heureux de l'avoir fait. Voilà. Bon, moi je crée, enfin clairement c'est pour ça que je fais ça. Voilà. C'est pour qu'à un moment donné, il y ait des moments qui soient décisifs dans la vie des gens qui viennent ici. Et un moment décisif, ça peut être une bonne soirée, ça peut être un moment qu'on s'accorde avec son mari, où on peut avoir une discussion, ça peut être un moment avec ses petits-enfants, parce que je reçois aussi beaucoup de familles avec des grands-parents. La maison de Somane est vraiment faite pour les petits-enfants. Voilà, la chapelle est un lieu absolument hors norme pour se retrouver en amoureux. Bon, voilà, je fais ça pour ça quand même. Voilà. Et donc ça, à chaque fois, ça me... Je suis très sensible à ça.
C'est magnifique. Bon, nous voilà déjà à la fin de cet très agréable échange. Tu le sais, pour conclure chaque épisode, j'ai encore deux dernières questions. La première, c'est quel établissement te fait de l'œil pour y séjourner le temps d'un week-end ?
Alors, il y en a beaucoup et j'ai la chance d'avoir beaucoup de magnifiques établissements qui me suivent, mais je vais en citer deux dans lesquels je ne suis encore jamais allée et qui me font vraiment de l'œil. Le Moulin de Marine, voilà, qui fait un travail formidable sur Instagram, qui me donne envie tous les jours. Et il y a l'établissement de Sophie, L'Heure Vide, dans les Cévennes, où je crois qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de points communs et d'attraits entre leur projet et le projet Namoura. Donc, j'espère assez rapidement pouvoir aller découvrir leur lieu.
Génial. Et la toute dernière question pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux l'état d'esprit des Namoura ?
Alors ça, c'est pour moi la question la plus difficile, tu le sais, j'ai eu du mal, mais ce matin, j'ai écouté très fort une chanson d'Imani qui s'appelle Take Care, que j'aime beaucoup et qui, je pense, reflète bien. Et Namoura, c'est une façon de recevoir et de prendre soin des gens et de les aimer au travers de nos maisons et de tout cet amour qu'on met dans nos rénovations, dans nos décors. Et je trouve que voilà, cette chanson Take Care, elle va très très bien pour le projet Namoura.
Ah oui, je trouve aussi. Et elle fait écho aussi avec le conseil de prendre soin aussi de nous.
Exactement.
Donc c'est parfait. Merci beaucoup Magali, c'était vraiment un plaisir de pouvoir recueillir ton témoignage. Je suis très heureuse et ben j'ai hâte de découvrir les nouveautés des Namoura.
Mais tu es la bienvenue en tous les cas.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueillie sur ton podcast. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Psst, faut pas partir comme ça.
Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis, maintenant, j'arrête de parler. Waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mau tu take care of the one you love, take care of the one you need, take care of the one need you most, the one far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold.